Bonsoir à tous. Merci d'être là, presque trop nombreux apparemment. Comme chaque année, je suis très heureux de reprendre le cycle de cours à l'Université Populaire, parce qu'en plus, au théâtre du TNP, qui, pour des raisons diverses, représente aussi beaucoup de choses pour moi. Du coup, c'est toujours très, très agréable pour moi d'enseigner la philosophie qui est ma passion, mais en plus de me retrouver dans ce cadre-là, c'est un vrai plaisir. Et je remercie encore le... On n'entend pas bien ? Ah ! Est-ce qu'on peut augmenter le volume du micro, peut-être ? Non, j'ai rien fait parce que je vois pas du tout où c'est. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ah, ça a l'air. Ça va mieux. Alors, l'année dernière, j'avais, à travers le thème de la crise de la philosophie, essayé de réfléchir sur le style propre à la philosophie. Qu'est-ce que c'est que le style de la philosophie ? C'est comment on la pratique ? Comment elle se dit, comment elle s'exprime, et à travers ça, donc j'étais beaucoup revenu sur la notion d'étonnement qui est au cœur de la philosophie et qui me semblait-il, c'est en tout cas ce que j'avais essayé de montrer un peu l'année dernière, étonnement qui était un peu en crise et en voie de disparition malgré tout ce qu'on peut dire sur le fait qu'aujourd'hui on vend énormément de livres de philosophie, tout cela ne me semblait pas un argument pour dire que il y avait autant de philosophie que cela dans à l'époque moderne. Alors la réflexion de cette année en fait va prolonger, je l'espère du moins, toujours cette question du style de la philosophie. Le style de la philosophie, c'est-à-dire encore une fois comment elle se pratique, comment elle s'exprime et quelle est sa place aujourd'hui pour nous dans la société actuelle. Est-ce qu'elle en a une et quel est son rôle ? Alors je voudrais vous dire de façon un peu abrupte d'abord l'idée générale que je vais essayer de développer pendant ces quatre cours qui constituent le cycle. Je voudrais montrer que c'est le thème des liaisons dangereuses qui m'y a invité. La question du désir est essentielle à la philosophie parce qu'elle lui est intrinsèquement liée, mais en fait de manière plus implicite qu'on ne le croit, parce que la question du désir et de la sexualité n'est pas absente de la philosophie, mais on pourrait dire que la philosophie, me semble-t-il, enfin c'est ce que j'essaierai de montrer un peu aussi, la philosophie l'aborde avec une certaine réticence, voire une certaine crainte, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de philosophie du désir, hein, j'y reviendrai, mais il y a toujours quelque chose dans cette question du désir et de la sexualité qui vient déstabiliser le discours philosophique. Et en fait, je voudrais essayer de montrer que finalement le désir est vraiment intrinsèquement lié à la notion d'étonnement en philosophie, qu'il est à l'origine de la philosophie, mais qu'il y entre dans cette philosophie en y jouant le trouble fait, d'une certaine manière. Le désir, c'est à la fois l'origine et ce qui déstabilise le discours philosophique. Et c'est ça qui sera propre au style même de la philosophie. Alors voilà, ça c'est dit de manière un peu abrupte, mais c'est cette idée-là que je voudrais essayer de développer et que je vais commencer par introduire avec quelques notions maintenant. Alors je reviens sur cette notion d'étonnement d'abord. Pourquoi revenir sur cette notion d'étonnement et pourquoi dire que l'étonnement est quelque part lié directement au désir ? L'étonnement, déjà, il faut le distinguer de la surprise. C'est pas la même chose que la surprise, l'étonnement. Quand on est surpris par quelque chose, on ne s'y attendait pas, ça déstabilise nos habitudes, mais une fois que la surprise est passée, on a tout fait de réexpliquer pourquoi on a été surpris, on se rassure avec des représentations, avec des habitudes, etc. La surprise, c'est quelque chose qui s'explique. L'étonnement, c'est pas tout à fait la même chose. L'étonnement, étymologiquement, c'est une fêlure qui s'introduit dans quelque chose, une faille, un choc, vraiment. Et ce qui se passe dans l'étonnement, c'est au fond qu'une représentation, qu'une idée, que quelque chose manque, vraiment. Il y a quelque chose d'irreprésentable. Quand on s'étonne de quelque chose, au commencement de la philosophie, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne parvient pas ni à formuler, ni à se représenter au départ. Bref, ça souligne un manque dans tous les discours établis. C'est ça l'étonnement, au départ. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étonnement est quelque chose qui est, au moment où il naît, qui est hors norme, qui ne peut pas être évalué en fonction de nos représentations établies, de certaines vérités, de certaines, de tout ce qu'on considère comme acquis. Il n'est donc pas de l'ordre non plus de ce qui est logique ou rationnel, puisqu'il est hors loi, l'étonnement. Alors, qu'est-ce qui va faire la valeur d'un étonnement philosophique? Si on accepte cette idée, j'affirme beaucoup pour l'instant, mais j'essaierai de développer ces idées, de vous montrer comment ça s'inscrit dans le discours philosophique avec des exemples précis, mais pour l'instant, j'essaie d'amener une des idées que je voudrais défendre. La seule chose qui va faire que l'étonnement philosophique va pouvoir intéresser, la seule chose qui va pouvoir permettre d'évaluer sa pertinence, c'est quoi, si ce n'est pas des critères de vérité, de logique? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer, qu'il soit bien dit, bien exprimé. Autrement dit, son style. L'étonnement souligne un manque dans les discours et les représentations établies. Et donc, au moment où il va se formuler, il va être, par essence, créateur de nouvelles représentations et de nouveaux discours. Et c'est ça, à mon avis, qui est à l'origine de la philosophie. C'est que ce manque, d'emblée, va créer de nouveaux discours. Et ce qui va faire sa valeur, c'est précisément qu'il soit bien dit. Cette problématique du bien dire, elle va être au cœur du lien entre la philosophie et le désir, comme vous pouvez le voir dans un des titres, d'ailleurs, c'est la deuxième séance, je crois, où je parle de la question du bien dire. Le bien-dire, donc, c'est ce qui va faire le lien entre le style, l'étonnement et le désir. Alors, je creuse un petit peu. Pourquoi en venir là à partir de ce thème des liaisons dangereuses et de la question du désir, la formulation du style? Il faut revenir, pour commencer, évidemment, au roman de Laclos. Roman épistolaire, comme vous le savez. Et donc, dans ce roman, c'est forcément la question de la lettre qui est importante. La lettre, à tous les sens du terme, de celle qu'on envoie ou qu'on reçoit, de celle qu'on écrit, de celle qui constitue la connaissance, quand on dit de quelqu'un que c'est un lettré, de celle qui peut être inefficace ou sans effet, quand ça reste lettre morte. La lettre, dans les liaisons dangereuses, c'est ce qui vient incarner les relations entre les personnages, c'est ce qui vient incarner leurs désirs, Et c'est aussi ce qui vient détruire. C'est ce qui est à l'origine de la destruction des personnages. Autrement dit, cette lettre, elle incarne et elle détruit d'un même mouvement. Et il y a là une dialectique du désir qui est extrêmement bien exprimée dans les liaisons dangereuses. Tous les personnages dans les liaisons dangereuses vivent uniquement par leur style. Au fond, est-ce que les liaisons dangereuses, est-ce que le roman épistolaire est vraiment intéressant pour le fond de l'histoire? L'intrigue n'est pas inintéressante, mais après tout, qu'est-ce qui va être fondamental? C'est la manière dont ça va être raconté. C'est la manière dont les personnages vont faire vivre leurs désirs. Et Laclos est extrêmement habile dès le début du roman. Je vais faire le lien avec la philosophie et l'étonnement, j'y viens. Mais je voudrais vous montrer quelque chose du début du roman. Dès la deuxième lettre, dans les liaisons dangereuses, je crois que c'est la deuxième, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est la première lettre de la marquise de Merteuil. Dès la deuxième lettre, il y a une allusion à la relation que Valmont et Merteuil ont eue auparavant. Et là, Laclos vous met une petite note, on va voir en bas de page, et en bas de page, il écrit que, malheureusement, on a perdu la correspondance de cette période entre Valmont et la marquise de Merteuil. Et là, j'ai qu'une chose à dire, quel salaud! Il nous prive d'emblée, passez-moi l'expression, mais d'emblée d'une correspondance qui, je vous laisse imaginer, entre ces deux grands maîtres de la sensualité et de la sexualité, je vous laisse imaginer à quel point la correspondance pouvait être fameuse. Il nous en prive d'emblée pour nous dire, voilà, cette correspondance a été perdue. Et toutes les lettres des liaisons dangereuses viennent à la place, en lieu et place, de cette correspondance perdue. Et ça, c'est passionnant, la correspondance à tous les sens du terme. Ça aussi, on y reviendra, mais la correspondance lettrée, bien sûr, mais la correspondance aussi, le fait de faire un. Évidemment, l'impossibilité de faire un pour Merteuil et pour Valmont, c'est ce qui va être au cœur de leur désir et de leur destruction. Mais voilà, là il y a toute une dialectique qui s'installe dans les liaisons dangereuses et qui fait que tous les personnages ne vivent que par leur style. La manière de raconter ce désir, ce fantasme d'union l'un avec l'autre qui a été perdu, dont on a perdu la correspondance, et tout le trajet du désir est dans ce style des personnages. Et bien cet aspect-là m'a vraiment, vraiment inspiré parce qu'il y a là un point, à mon avis, où l'étonnement philosophique rejoint quelque part la littérature. C'est qu'au départ, la philosophie n'est pas rationalité, n'est pas logique. Le commencement de la philosophie, c'est un étonnement qui souligne que quelque chose a été perdu, que quelque chose manque et qu'il faut le retrouver. Et ce qui va faire la pertinence de la question philosophique, c'est la manière de l'exprimer par un style. Et cet étonnement, c'est en cela, à mon avis, qu'il est profondément lié à la dialectique du désir. Et je voudrais montrer cette importance du bien-dire dans la philosophie. Avant de préciser un peu ce problème du bien-dire, je voudrais réancrer tout cela aussi dans des questions contemporaines, parce que ça me paraît essentiel. Déjà l'année dernière, au moment de la question de la crise de la philosophie, j'avais essayé de souligner que la perte de l'étonnement était un signe aujourd'hui d'une certaine crise de la philosophie. Eh bien, on va le retrouver, cet aspect, avec la problématique du bien-dire et du style. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, la question du bien-dire le souci du bien-dire, plutôt, disparaît dans notre société contemporaine. Alors, je ne fais pas allusion ici au fait qu'on multiplie les fautes d'orthographe, qu'on ne sait plus écrire, qu'il y aurait eu un âge d'or du langage. Ce n'est pas du tout ce dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des questions liées au langage et au dire, qu'est-ce qu'on privilégie dans ce genre de questions ? Le message, l'information. Tout est fait aujourd'hui pour que nos relations interpersonnelles ne soient qu'un échange d'informations. Toutes les formes d'écriture électronique aujourd'hui, je ne les condamne pas, elles sont utiles, hein, ne nous méprenons pas, mais il y a quelque chose, évidemment, qui disparaît là-dedans. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est le souci du bien-dire. Est-ce que vous pouvez encore, aujourd'hui, à partir d'un mail, vous faire une image de la personne qui l'a écrit ? Non. Peut-être. Autrement dit, qu'est-ce qui disparaît ? Qu'est-ce qui disparaît dans l'écriture électronique ? Ce qui disparaît de plus en plus, en privilégiant le message, l'information sur la question du style, ce qui disparaît, c'est le corps. C'est tout ce qui, dans l'écriture, passe du corps. Et donc, toute cette question du désir et du style, elle est dans cette problématique du bien-dire, et qui, à mon avis, là aussi, je n'en resterai pas à ces simples mots, hein, j'y viendrai, mais au quatrième cours sur l'importance du bien-dire, en quoi la psychanalyse a pu réinstaurer cela, et en quoi Deleuze aussi s'y intéressait, ça sera l'objet du dernier cours. Mais je veux déjà en parler un petit peu, pour essayer de donner un peu le panel général du cours. Donc, il me semble que cette problématique du bien-dire disparaît aussi aujourd'hui dans nos modes de relations interpersonnelles, et que c'est le signe d'une certaine disparition du corps et de l'importance du désir aussi. Il va falloir que je précise un peu tout cela. Il n'y a pas du tout d'évidence à dire que la philosophie, à travers l'étonnement, est d'abord de l'ordre du bien-dire. Parce que dire ça, c'est avoir quand même, c'est défendre une certaine position philosophique et qui va à l'encontre d'un certain nombre de choses. De quoi ? Ben, c'est d'abord réfuter l'idée que la philosophie est de l'ordre de ce qui est bien pensé ou du bien-pensant. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le bien-pensé ? On a tendance à dire que la philosophie est avant toute chose de l'ordre de la pensée, c'est-à-dire du concept. Que le concept, c'est ce qui fonde le discours philosophique. Que la philosophie, c'est d'abord de l'ordre de la représentation. Eh bien, la problématique du bien-dire et du désir, elle va insister sur le fait que la philosophie, c'est d'abord de l'ordre de l'expression, ce qui est très différent. Et ça, il va falloir que je le justifie aussi. C'est pas de l'ordre du bien-pensé, mais c'est pas de l'ordre du bien-pensant non plus. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'une philosophie du désir, une philosophie qui se fonde sur le désir, est une philosophie qui n'a rien à voir avec une morale, qui est autre que la morale. Je dis autre, c'est-à-dire pas immorale. Il ne s'agira pas de dire qu'une philosophie du désir, c'est une philosophie qui doit briser tous les codes, qui doit libérer toutes les formes de jouissance, il faut tout expérimenter, oublier tous les interdits. C'est plus complexe. Il ne s'agit pas de dire qu'une philosophie du désir est une philosophie immorale ou amorale. Elle est autre. On est dans un autre type de discours. Donc, si j'ai réussi un peu à situer un peu les choses, je voudrais présenter donc à partir de là, les quatre thèses, si vous voulez, que je vais essayer de défendre à travers cette idée que la philosophie est fondée sur le désir, sur le style, avant d'être fondée sur la rationalité, le bien-pensant, le bien-pensé et le concept. D'abord, c'est montrer que le désir a toujours habité l'histoire de la philosophie depuis l'origine. Alors là, l'origine, ce sera Platon. Je vous invite vraiment à, si vous en avez le temps et la possibilité, d'ici la semaine prochaine, à lire Le Banquet de Platon, parce que je vais beaucoup en parler la semaine prochaine. Mais il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant pour la philosophie, en fait, dans Le Banquet de Platon. Et simplement dire que c'est, le désir habite la philosophie depuis très longtemps, c'est entrer en opposition avec des philosophies du désir contemporaines dont je suis pourtant extrêmement admiratif, vous le verrez, et je veux parler ici de Foucault et Deleuze. Pourquoi ? Parce que Foucault, je vous le montrerai dans quelques instants, a écrit ce qu'on appelle une histoire, ce qu'il appelle une histoire de la sexualité, pour montrer que le concept de désir est en réalité un concept moderne, et il va l'expliquer. Sa thèse me passionne, mais je ne la partage pas pour autant, et j'essaierai de montrer pourquoi. Et puis évidemment, l'autre conception incroyable du désir aussi est vraiment passionnante, c'est celle de Deleuze, Deleuze qui sort de la conception du désir comme manque. Et là aussi, ça va m'inviter à placer l'origine de la philosophie dans le désir et dans l'étonnement, à être d'une certaine manière un peu en porte-à-faux vis-à-vis de Deleuze aussi. Je vais essayer de montrer pourquoi. Mais ça, ce sera donc le premier point aujourd'hui. Et ce que je voudrais montrer, c'est que le désir a habité l'histoire de la philosophie depuis très longtemps, et que ça n'est pas un concept moderne, et qu'en cela, il faut peut-être suivre une autre voie, non pas qu'elle soit pas passionnante, mais que celle de Foucault et Deleuze. Deuxième point, ça sera l'objet du deuxième cours. Évidemment, je vous ai dit que la philosophie était de l'ordre de l'étonnement, du bien-dire, que ça troublait le discours philosophique, tout ça, je n'ai fait que l'affirmer, et je n'ai rien justifié pour l'instant. Donc, il faudra que, quand même, je le justifie à partir d'une lecture que je vous proposerai du Banquet de Platon. Un ouvrage qui montre à quel point la question du désir est déstabilisante pour le discours philosophique, et je vous invite simplement à regarder dans le Banquet de Platon, si vous avez l'occasion de le lire, ça vous mettra sur la piste, à quel point Socrate est embarrassé quand on lui demande de parler du désir. Lui, il veut parler de la vérité du désir. Et à chaque fois qu'on lui demande, il essaye de détourner la question, il arrive, puis quand... Et puis finalement, quand il se décide à en parler, boum, il fait surgir une prêtresse, une femme, c'est quand même pas rien dans un discours de Platon. Ça aussi, c'est un point assez extraordinaire, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est une femme qui devient la source de la vérité, et c'est même pas la vérité le problème d'ailleurs. La vérité sur le désir dans un discours platonicien, dans un banquet où théoriquement il n'y a que des hommes ou des prostituées. Mais voilà, donc j'y reviendrai, et vous verrez, j'essaierai de montrer que donc cette problématique du bien-dire, elle naît dans le banquet, vraiment, et qu'elle habite toute l'histoire de la philosophie. Monsieur. Troisième point, le troisième cours, cette problématique du bien-dire, elle va remettre en question la prévalence de la rationalité, de la logique et de la représentation et du concept, allons jusqu'au bout, dans la philosophie. Et elle va en montrer quelque part les failles et les échecs. Et il y a une personne qui a, à mon avis, admirablement montré cela, c'est Lacan, lorsqu'il a rapproché de manière absolument géniale, c'était pas le premier à le faire, hein, c'était Adorno le premier à le faire, mais lorsqu'il a rapproché Kant et Sade. Et vous allez voir que la manière dont il identifie chez Kant un présupposé affectif, jouissif, fantasmatique, on pourrait dire, au fond de la rationalité la plus absolue du système kantien est vraiment génial. Et il arrive à retourner la... Enfin, il arrive. Ça sera toute la question, mais... à retourner toute la question morale et logique kantienne en rapprochant Kant et Sade, et donc à déstabiliser l'importance ou la surpuissance de la rationalité dans la philosophie grâce à la place du désir. Et ça, ce sera le troisième cours. Enfin, dernière chose, je vous disais que cette problématique du bien-dire a quelque chose de... extrêmement complexe aussi pour l'époque contemporaine. Alors, quand je dis époque contemporaine, je dirais depuis le début du XXe siècle, à peu près, fin XIXe, début XXe. Au fond, la psychanalyse, la naissance de la psychanalyse a suscité énormément de polémiques et j'essaierai d'en retracer une à travers le débat que notamment Deleuze a eu avec la psychanalyse, et je parlerai également un petit peu de Lacan à ce moment-là. Mais ce qui me semble intéressant, indépendamment des théories psychanalytiques, c'est que, justement, la psychanalyse, si elle a eu, qu'elle soit controversée ou pas, elle a eu une forme de succès, et même, il y a même une forme de mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire qu'on a son psy. Bon, énormément de personnes ont au moins une fois dans leur vie consulté un psychanalyste, ou un psychologue, ou un psychothérapeute, peu importe. Mais il y a une place pour ça, mais pourquoi ? Ben précisément parce que, c'est ce que j'essaierai de montrer, la psychanalyse a réaménagé un espace où la parole et l'importance du bien-dire et du désir a retrouvé quelque chose, enfin, a retrouvé justement une place. Et après, on discutera des théories psychanalytiques, on n'est pas obligé d'adhérer à la psychanalyse ou pas, ça sera l'enjeu du débat, mais de fait, c'est ce qui a été au cœur vraiment de, à mon avis, du succès aussi de la psychanalyse. Voilà, le programme sur ce cycle de cours. Et donc, je vais entrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir le thème d'aujourd'hui. Est-ce que le désir est une problématique, un concept, pardon, moderne ? Alors, pour démarrer cela, j'ai essayé de faire mon travail un peu, c'est-à-dire de voir quels étaient les chercheurs, les penseurs actuels sur le désir. Et il y a notamment un jeune chercheur du CNRS qui s'appelle David Rabouin. C'est lui qui a écrit très récemment une petite... Enfin, très récemment, je ne sais plus exactement, mais peu importe, une petite anthologie de textes sur le désir. Et il a publié notamment un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui va me permettre d'amener les philosophies de Deleuze et de Foucault. C'est un article qui s'intitule « Le jeu du désir et du pouvoir ». Entre Deleuze et Foucault, pardon, le jeu du désir et du pouvoir, c'est un article que vous pouvez trouver dans une revue qui s'appelle la revue Critique. C'est le numéro de juin-juillet 2000, pour ceux qui voudraient consulter cet article. Il est très facilement trouvable sur Internet aussi. Alors, que dit David Rabouin dans cet article? Et c'est ce qui va me permettre d'amener Deleuze et Foucault. David Rabouin dit, voilà, le concept de désir, on fait comme s'il avait existé depuis toujours, alors que le désir, au fond, ça signifie quoi ? Comment est-ce qu'on peut affirmer, comme ça, que le désir a toujours été présent dans l'histoire de la philosophie ? Et le premier argument de Rabouin pour contester cela, c'est de dire, regardez, dans l'histoire de la philosophie, ce qu'on traduit par désir, c'est une quantité de termes extrêmement différents les uns des autres. Il donne des exemples. Eros, epithumia, orme, appetitus, libido, cupiditas, concupiscenta, conatus, endeavor, appetit, lust, sehnsucht, wunsch, wille, begierde, et j'en passe. À travers tous ces thèmes, on peut voir passer Platon, Spinoza, Freud, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est vrai, il a raison. On traduit toute cette diversité de termes par un seul et même terme, qui est le terme de désir. Alors, il se dit, c'est pas possible, c'est pas rigoureux conceptuellement. Et donc, il cherche à expliquer pourquoi on veut absolument que le désir ait été présent dans toute l'histoire de la philosophie et qu'on ne peut pas en faire la généalogie et que c'est quelque chose qui, en réalité, apparaît dans la modernité. Pourquoi on le cache ? Eh bien ça, pour lui, c'est une raison idéologique. Cette raison, dit-il, c'est que, en fait, le désir, il faut être clair, c'est né, cette question du désir, elle est née avec Lacan, avec la psychanalyse, et qu'il y a une volonté institutionnelle, dit-il, de propager uniquement le lacanisme, et à travers Lacan, toute une tradition hegelienne, parce que Hegel a été aussi c'est un des grands théoriciens du désir comme manque, également. Et donc, il dit aussi, bon, il va un peu vite là-dessus, il dit lacano-hegeliano-chrétienne. Voilà. Donc c'est une raison idéologique, on veut propager un certain discours existant sur le désir pourquoi en somme ? Pour occulter tous les discours nouveaux qui existent sur le désir et les nouveaux discours, et là-dessus il a raison, c'est vrai, ce sont de nouveaux discours, ce sont Deleuze et Foucault. Donc il voit une raison politique au fait que Deleuze et Foucault auraient été évincés du discours sur le désir. Ben, on va essayer de ne pas suivre ce qu'il souligne comme un défaut, c'est-à-dire on va rentrer explicitement dans les philosophies de Foucault et de Deleuze pour voir si véritablement cette notion de désir est uniquement un concept moderne. Je vais commencer par Foucault. Le mot désir, c'est un mot que Foucault détestait. Il l'a dit. Il en avait marre qu'on parle tout le temps de l'homme de désir, disait-il. Alors pourquoi il en avait marre ? Parce que c'est ce que je vais essayer d'abord de vous faire comprendre avant de discuter sa propre théorie. Comme je vous disais, Foucault a écrit ce qu'il a appelé une histoire de la sexualité. Cette histoire de la sexualité, elle regroupe en fait trois livres qui sont La volonté de savoir, L'usage des plaisirs et Le souci de soi. Moi, je vais d'abord vous parler de la volonté de savoir. Je vous fais simplement déjà aussi remarquer que parler d'une histoire de la sexualité, pourquoi Foucault fait-il cette histoire ? Parce qu'il considère justement que la sexualité est un concept moderne, que c'est quelque chose de construit. Et le désir également. Alors, que dit Foucault ? Là, ça va nous permettre aussi de réinstaurer des enjeux de société très contemporains. Foucault, alors je vais surtout vous parler de la volonté de savoir. Foucault part de cette question. Il dit, voilà, la sexualité, on l'aborde toujours sous la forme suivante. On se demande toujours pourquoi la sexualité est réprimée. Il se dit, mais c'est quand même étrange qu'on voit toujours l'histoire de la sexualité dans le rapport avec la répression bourgeoise des thèmes sexuels. Et il se dit, au fond, cette vision, elle n'est pas fausse, mais elle est beaucoup trop caricaturale. Et les premières pages de La Volonté de Savoir, elles vont essayer de montrer que, parallèlement au discours bourgeois des tabous sur la sexualité, se développe en fait tout un ensemble de savoirs, de connaissances et de thèmes extrêmement précis sur la sexualité. C'est pas du tout tabou, dit-il. Il y a de plus en plus de sciences, à commencer par la médecine et la biologie, qui apportent de plus en plus de connaissances extrêmement précises sur la sexualité. Et il y a énormément de choses où la sexualité est présente. Et finalement, aujourd'hui, elle s'est multipliée par Internet, mais toute la question de l'érotisme, de la pornographie, en effet, se multiplie à l'infini. Et les discours sur la sexualité, on n'est pas du tout, uniquement dans la répression. Alors, évidemment, Foucault ne parlait pas d'Internet. Hein. C'est pour vous dire que sa théorie a quelques justifications. Donc, il repart un peu en arrière et se dit, on se pose mal la question. La question, c'est pas de comprendre le rapport de la sexualité et de la répression. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on pense toujours la sexualité sous la forme ou de la répression ou de la libération? Pourquoi est-ce que c'est sans cesse cette question qui revient? Et là, une explication, libération, répression, il se dit, ben c'est simple. La sexualité, c'est en réalité quelque chose qui dépend d'un mécanisme de pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, au fond, ce concept de désir est né d'une conception de la sexualité qui enferme l'individu humain dans des schèmes beaucoup trop rigides. Aujourd'hui, dit-il, le désir est devenu la clé pour penser n'importe quoi chez l'homme. Et donc le désir n'est qu'un moyen, selon lui, pour le pouvoir politique de, par instant, stimuler ou au contraire réfréner des rapports de force qui constituent la société et dont le pouvoir se sert. C'est une thèse assez complexe. Mais au fond, le désir, ça n'est qu'un concept lié à une conception moderne de la sexualité et qui instaure un rapport de pouvoir sur les individus et qui empêche des processus d'émancipation. Alors, je voudrais juste vous lire quelques petits passages de La Volonté de Savoir pour simplement vous faire entendre ça de sa bouche, si je puis dire. C'est dans La Volonté de Savoir, page 103. Sous la grande série des oppositions binaires, corps, âme, chair, esprit, instinct, raison, pulsion, conscience, toutes les thématiques liées à la question du désir, du désir psychanalytique notamment. Donc, sous la grande série des oppositions binaires qui semblaient renvoyer le sexe à une pure mécanique sans raison, l'Occident est parvenu non pas tellement à annexer le sexe à un champ de rationalité, ce qui n'aurait sans doute rien de remarquable tant nous sommes habitués depuis les Grecs à de telles conquêtes, mais à nous faire passer presque tout entier sous le signe d'une logique de la concupiscence du désir. Dès qu'il s'agit de savoir qui nous sommes, c'est elle désormais qui nous sert de clé universelle. J'insiste un tout petit peu, page 139, sur le fait que la sexualité est liée à des stratégies de pouvoir et que la question du désir l'est également aussi. Celle-ci, la sexualité, il ne faut pas la concevoir comme une sorte de donnée de nature que le pouvoir essaierait de mater ou comme un domaine obscur que le savoir tenterait de dévoiler. C'est le nom qu'on peut donner à un dispositif historique, la sexualité. Non pas réalité d'en dessous sur laquelle on exercerait des prises difficiles, mais grand réseau de surface où la stimulation des corps, l'intensification des plaisirs, l'incitation au discours, la formation des connaissances, le renforcement des contrôles de résistance s'enchaînent les uns avec les autres selon quelques grandes stratégies de savoir et de pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette thèse de Foucault sur la... Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire pour lui rendre justice, mais il faut bien aussi trancher un moment. Il y aurait donc, selon lui, la sexualité, ça ne veut pas dire que les rapports sexuels ont commencé au XIXe siècle, hein, mais la sexualité comme concept serait un concept moderne, inscrit dans des stratégies de pouvoir, dans une conception de l'homme fermée et qui permet de gérer des rapports de force entre les hommes. Alors, pourquoi cette thèse de Foucault m'a beaucoup dérangé à plusieurs points de vue. D'abord parce que c'est brillamment... j'étais intuitivement, en désaccord, mais à chaque fois que je le disais, j'arrivais absolument pas à comprendre pourquoi j'étais en désaccord. Et comme souvent, quand on est face à ce type de problème, il faut revenir à l'origine. Foucault dit, et là-dessus, je partage totalement ce qu'il dit, il dit « Pourquoi est-ce qu'on pose toujours le problème de la sexualité sous l'angle de la libération et de la répression ?» Ça, c'est vrai, c'est une vraie question. Mais l'interprétation qu'il en donne d'emblée, c'est parce que la sexualité est inscrite dans des mécanismes de pouvoir. En fait, je pense, peut-être, et je vais essayer de le montrer, que, à mon avis, c'est le contraire. La sexualité est toujours pensée dans des mécanismes de libération et de répression, précisément parce que le pouvoir ne sait pas quoi en faire. Et que c'est un domaine qui échappe aux logiques du pouvoir et qui l'inquiète même. Je veux dire par là que je ne pense pas que le pouvoir arrive à se servir de la sexualité et du désir pour influencer l'homme. Peut-être un peu, il y a des mécanismes de propagande bien sûr, mais c'est pas tellement ça qui est en question. Je voudrais vous donner un exemple simple si on veut, contemporain. Vous savez que en ce moment même, il est question de... il y a eu une proposition de loi concernant la prostitution et la pénalisation des clients. Bon, la question de la prostitution, c'est le problème éternel dans une société. C'est pas de nos jours que ça date. Qu'est-ce que... Dans ce débat, de quoi il est question? Alors, évidemment, je vais être très très clair, il est extrêmement important, de mon point de vue, que tout ce qui est de l'ordre du proxénétisme, de l'exploitation des femmes, doit être sévèrement condamné, que je sois clair. Mais, sur la question de la prostitution elle-même, on est toujours dans le conflit entre est-ce qu'on est vraiment dans l'ordre de ce qui est moral ou pas? Est-ce que une femme ou un homme qui va monnayer son corps le fait véritablement, volontairement, en suivant son propre désir. Est-ce qu'il n'y a pas là des mécanismes d'exploitation du corps, etc. Et ça, ça dérange beaucoup. On ne sait pas, on veut introduire des règles morales, on veut... et c'est un point, pourquoi c'est toujours le scandale? Parce que dès que vous abordez des questions de sexualité, c'est toujours le scandale. Toujours. Parce que ça échappe au pouvoir. C'est quelque chose que le pouvoir ne parvient pas à contrôler. Soit il est trop dans la rigueur morale, soit, ça se voit moins, je le reconnais, presque trop dans le libertinage. Ça se voit quand même beaucoup moins. Mais c'est une question qui continue d'échapper. Et à mon avis, la sexualité n'est pas quelque chose dont le pouvoir arrive à se servir, c'est quelque chose qui vient le déranger beaucoup. Et c'est là-dessus, qu'est-ce que je veux montrer par là? C'est que justement la question du désir et la question de la sexualité sont des choses qui viennent remettre en question les représentations établies et les normes des différents discours. Toujours, sans cesse, le désir, c'est un étonnement. Et si la question du désir et de la sexualité est insaisissable par le pouvoir, c'est précisément parce que le désir introduit un manque, une place vide, quelque chose d'irreprésentable dans les discours moraux ou immoraux établis. Et c'est sur ce point-là que peut-être je ne peux donc plus partager l'analyse de Foucault qui fait du désir une généalogie conceptuelle. Parce que au contraire, et c'est ce que je vais m'acharner à essayer de montrer aussi, le désir n'est pas un concept. C'est pas quelque chose dont on peut parler dans l'abstrait. Quand on parle du désir, inévitablement on parle du sien, le désir. On est pris dans ce dont on parle. Et donc, ça aussi j'essaierai de montrer avec Platon. Alors, dire que le désir n'est pas un concept, là aussi, il va falloir quand même, et je terminerai sur Deleuze, là aussi c'est extrêmement difficile pour moi parce que je suis passionné par Deleuze, mais j'arrive pas à le suivre totalement. Alors, où est-ce que ça me passionne et où est-ce que j'arrive plus à suivre? Je voudrais vous lire un petit passage d'une lettre de Deleuze et Foucault. Je vais vous demander de me croire sur parole, de vous résumer, entre guillemets, et vous parler un peu de la théorie du désir chez Deleuze. D'abord, je vais vous donner ses concepts principaux, et puis après, j'essaierai d'expliquer avec les images qu'il a données lui-même pour vous faire comprendre ce dont il parlait. Alors, Deleuze, en fait, s'insurge contre une chose dans sa conception du désir, c'est que pour lui, le désir n'est absolument pas lié au manque. Le désir n'est pas manque, n'est pas négativité. Le désir, c'est quelque chose de positif et de productif. C'est un processus, le désir. Il n'est pas lié au manque, il n'est pas lié à la frustration, il n'est pas lié à la dialectique oedipienne qui a été décrite par Freud, etc. Qu'est-ce que fait le désir? Alors ça, je l'expliquerai un peu plus précisément avec des images juste après, mais Deleuze dit, le désir crée des agencements. Il fait des liens. Il est processus. Et le désir, c'est fondamentalement quelque chose, et là aussi, il s'insurge contre la psychanalyse, c'est quelque chose de fondamentalement impersonnel. Ça n'a rien à voir avec l'individu singulier, le désir. L'individu singulier, c'est contingent. Le désir, c'est quelque chose d'impersonnel. Alors, pour vous expliquer ce qu'il veut dire, je vais réemployer les images qu'il donne lui-même, qui sont très très belles, et on parle très bien dans l'abécédaire, où il explique ce qu'il a voulu dire par désir. Et il commence d'ailleurs en disant, au fond, ce qu'on a voulu dire avec Guattari par le mot désir, c'est quelque chose de très simple. C'est que le désir, c'est pas le manque, dit-il, et il donne un exemple. Il dit, quand une femme désire un chemisier, c'est pas cet objet précisément qu'elle désire, c'est pas ça le problème. Le problème, ce qu'elle désire à travers tout ça, c'est pas l'objet, c'est un ensemble de choses. C'est quoi cet ensemble? Eh bien, c'est l'ensemble de sa représentation, enfin, pas sa représentation, mais de l'image qu'elle se fait de tout ce qui va se passer quand elle va porter ce chemisier, de comment elle va se voir par rapport au regard de quelqu'un qui est important pour elle. Du contexte, je ne sais pas, d'une fête où elle va aller le soir. Là, c'est moi qui brode parce que ce n'est pas Deleuze qui me dit. C'est-à-dire tous les agencements qui vont se créer grâce au désir de ce chemisier, qui n'est pas le désir de ce chemisier, qui est le désir de tout ce qui va être relatif à la vie de cette femme quand elle va porter ce chemisier. Et là, Deleuze dit, c'est extraordinaire ça, parce que le désir, voyez tous les liens que ça crée des ensembles extraordinaires. Alors il en parle aussi parfois, là c'est pas dans l'ABCDR, mais ailleurs, à travers Proust, où il parle de Proust et d'Albertine, et où il dit qu'au moment où Proust désire Albertine, c'est pas Albertine qui le désire, mais c'est Albertine assise sur ce banc pendant une nuit étoilée où il y a la lune, c'est tout ce paysage que Proust désire. Et donc Deleuze dit, vous voyez que le désir, ça n'a rien à voir avec l'objet, l'objet c'est un prétexte. C'est pas le manque qui est intéressant, c'est ce que produit le désir. Et il va dire, et là moi, je suis toujours complètement fasciné par cette théorie du désir qui est magnifique, il dit, évidemment tout ça c'est pas réfléchi, c'est pas quelque chose qu'on se dit. C'est quelque chose qui traverse le sujet, qui est bien au-delà du sujet. Et là, il a une expression dans l'ABCDR, il dit « le désir, c'est quelque chose qui coule entre les choses ». La métaphore est clairement sexuelle. C'est quelque chose qui coule et qui crée des agencements entre les choses. Et c'est là que... Là aussi, je partage totalement cette idée que le désir n'est pas quelque chose de maîtrisé par le sujet. C'est pas quelque chose que le sujet conscient peut décider. Ça nous traverse. Mais alors que fait-il ensuite? Et c'est là que, ça c'est toute la théorie, notamment qu'on trouve dans l'anti-Oedipe, il dit ce désir... C'est quelque chose en fait qui est propre à la réalité, qui est propre à ce qu'il appelle, je ne vais pas trop m'étendre sur le concept, c'est compliqué, à ce qu'il appelle un corps sans organe. C'est-à-dire en fait, le désir c'est tout ce qui traverse des ensembles et dont chaque individu n'est qu'un moment contingent. En fait. Et l'anti-Oedipe va développer justement toute cette, on peut le dire comme ça, ontologie du désir. Le désir, ce serait quelque chose, Deleuze parle de flux, quelque chose qui coule comme ça, dans des corps politiques, dans des corps sociaux, dans des corps humains, et qui nous traverse mais qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là que moi, je bifurque. Parce que là, il y a quelque chose qui me... Comment dire ? Ce passage de le désir dépasse l'individu et le sujet, je suis d'accord, à du coup le désir est une espèce d'être qui coule ou de flux entre nous, dans ce passage-là, il y a ce que je pourrais appeler une croyance métaphysique. On peut y croire, on peut trouver l'image belle, mais qu'est-ce qui se passe si on n'y croit pas ? Cette ontologie du désir, elle est intéressante, mais peut-être qu'il y a une question qu'on pourrait se poser. C'est pourquoi est-ce que si on admet que le désir dépasse le sujet conscient, dépasse la maîtrise du sujet, pourquoi d'emblée en faire une espèce d'être indépendant, enfin pas indépendant de nous, il se traduit en nous, mais pourquoi d'emblée en faire une ontologie ? Pourquoi ne pas se dire simplement, si je puis dire, que la conception du sujet comme conscience, comme maîtrise, comme sujet rationnel, comme sujet qui décide, n'est plus une conception suffisante du sujet? Est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir le désir de l'individu, d'en faire quelque chose d'impersonnel, pour dire qu'il dépasse la subjectivité consciente? À mon avis, non. Et ce sera mon parti pris, c'est-à-dire que je ne voudrais pas faire du désir une ontologie, c'est-à-dire quelque chose qui vient un peu comme un deus ex machina. Mais simplement, le désir est bien quelque chose qui dépasse notre conscience et notre maîtrise des choses, peut-être. Mais peut-être qu'on peut aussi essayer de penser une autre conception de la subjectivité qui permet de penser ça, sans forcément entrer dans l'ontologie de Leusienne qu'il décrit dans l'Anti-Œdipe. Évidemment, ce point est ouvert au débat. Alors, pourquoi, là aussi, c'est intéressant, et je terminerai là-dessus. Le fond du problème est toujours le même. J'avais commencé avec David Rabouin qui disait, mais regardez, on n'est pas rigoureux. Le désir, ça désigne de multiples choses dans l'histoire de la philosophie. On traduit par désir de multiples concepts différents. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais si on attache le désir à la question du style et donc justement pas au concept, l'objection s'évapore. Le désir n'est pas un concept. C'est quelque chose qui traverse l'histoire de la philosophie et qui est lié à l'origine, à l'étonnement et au style. Si on admet cela également, alors la thèse de Foucault selon laquelle le désir est interne à un mécanisme de pouvoir peut aussi, en toute modestie, peut aussi se trouver une autre voie. On peut interpréter aussi le fait que la sexualité et le désir sont toujours pensés sous l'ordre du mécanisme de la répression et de la libération, précisément parce que le désir échappe sans cesse à nos représentations établies et aux normes établies. Enfin, chez Deleuze, Deleuze accordait, et c'est tout, il le dit dans Qu'est-ce que la philosophie, une puissance extrêmement grande à la pensée, extrêmement grande. La philosophie, c'est la pensée pour Deleuze. Et au moment où il crée son concept de désir, la création d'un concept chez Deleuze, c'est quelque chose d'extrêmement fort. À partir du moment où on crée un concept, on crée une réalité chez Deleuze. Eh bien, c'est sur cette puissance de la pensée que je mets un point d'interrogation. Parce que, quand Deleuze dit que le désir crée des agencements, à mon avis, ce qui crée des agencements dans le vécu du désir, c'est pas tant le désir que ce qu'on appelle le fantasme. Ce qui crée des liens entre les choses, dans nos têtes, hein, pas forcément entre les individus, c'est le fantasme. C'est, à mon avis, on est beaucoup plus proche du fantasme, ou même peut-être de la pulsion chez Deleuze. La définition du désir chez Deleuze est extrêmement proche de ce qu'on peut appeler la pulsion. Et donc, peut-être que si, justement, on admet que le désir n'est pas de l'ordre de la pensée, n'est pas de l'ordre du concept, on peut échapper aussi à cette nécessité de l'ontologie que fonde Deleuze après dans l'Anti-Œdipe, parce que cette ontologie, malgré son génie, elle repose quand même sur une croyance initiale. Il faut croire à cette image. Alors, c'est peut-être ce point qu'on pourra discuter, et justement, ce que je voulais essayer de montrer ce soir, c'est que si on accepte pour l'instant, d'une manière un peu dogmatique, parce que j'ai encore rien montré, mais que le désir est bien de l'ordre du style et du bien-dire, on peut sortir des problématiques qui font du désir essentiellement un concept moderne. On peut le voir d'une autre manière dans l'ensemble de l'histoire de la philosophie, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer et de développer la semaine prochaine avec le banquet de Platon. Je vous remercie.